Notre invité cette semaine dans Double Face, c'est un réalisateur vaudois. Bonjour Lionel Bayer.
Bonjour Valérie.
J'aurais pu dire lausannois. Est-ce que c'est important de préciser à ce point-là ?
Non, vous avez raison, je me sens très lausannois, mais vaudois, ça va avec. Lausanne est faisant partie du canton de Vaud, étant même la capitale du canton de Vaud, mais je me sens très lausannois, c'est vrai. Ouais.
Et en France, vous allez beaucoup dans la francophonie, on vous présente carrément comme suisse.
Alors, je préfère être lausannois ou vaudois, que je me sens plus vaudois ou lausannois que suisse. Suisse, c'est une drôle d'identité avec laquelle j'ai toujours eu un petit peu de peine à vivre avec. J'ai de la peine à me définir comme suisse. Ça me fait toujours, c'est drôle, un petit coup au cœur quand on me dit que je suis suisse, réalisateur suisse à l'étranger. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais si, des années de psychanalyse n'y feront rien, mais il y a quelque chose qui rappe toujours un peu, parce que je ne me sens pas appartenir à l'identité de cette espèce d'ensemble qu'est la Suisse. Par contre, de dire que je suis lausannois ou vaudois, oui, parce que je crois que et la façon dont les gens votent, et la façon dont les gens sont présents dans l'espace public, me semble assez proche comme vaudois ou comme lausannois, et moins comme suisse, je dois dire.
Et alors, pour étoffer votre portrait, aussi pour aller dans la précision, réalisateur, oui, mais aussi scénariste, producteur, acteur, enseignant et projectionniste.
Et c'est même le seul métier pour lequel j'ai un titre, c'est projectionniste, puisque j'ai été projectionniste au cinéma Rex à Aubonne, et que pour ça, j'ai un certificat qui me permet, qui me donne le droit de faire de la projection, même en 35 mm, voilà, on n'est plus beaucoup à pouvoir faire ça, mais je n'ai jamais eu d'autres titres dans le cinéma, donc quand je remets des diplômes à la FEMIS ou à l'ECAL, les gens sont beaucoup plus titrés que moi, tous les étudiants et étudiantes que j'ai eus sont objectivement beaucoup plus titrés que je ne le suis.
Mais le cinéma, véritablement, ça s'apprend, Lionel Bayer ?
Non, ça ne s'apprend pas, mais ça s'exerce. Et les écoles de cinéma sont bien pour ça. Non, vous pouvez tout à fait faire du cinéma sans passer par une école, c'est évident. Comme la radio ne s'apprend pas, c'est une façon d'être. Après, d'avoir la chance de s'exercer dans une école de journaliste, ça permet de se faire des réseaux, des contacts, etc. Et puis surtout, le grand avantage d'une école, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir rater, de pouvoir faire des mauvais films qui sont vus par personne. Alors que quand vous êtes directement jeté dans le bain de la production réelle, tout ce que vous faites va être vu forcément, puisqu'il y a eu de l'argent pour le faire. Donc les gens vont vouloir voir ce que vous avez fait avec cet argent. Donc l'école, j'étais très envieux, je suis toujours très envieux, des étudiantes et étudiants qui ont le droit de faire des mauvais films dans les écoles. C'est même ce qu'ils devraient faire pour ne plus les faire à l'extérieur.
Si on remonte le fil de votre parcours, ça commence par un rôle de co-gérant et de programmateur du cinéma Rex à Aubonne. Là, vous avez 17 ans. Vous irez jusqu'à la direction du département cinéma de l'ECAL. C'est là où vous parliez de la remise des diplômes. Pendant presque 20 ans, vous passez aussi par la création de votre boîte de production. Et puis, vos débuts professionnels de réalisateur, c'est au tournant du troisième millénaire. Ce qui peut être symbolique. Au passage, vous avez alors 25 ans. Votre premier film, c'est celui au pasteur, entre parenthèses, ma vision personnelle des choses. Le titre de votre premier film, c'est un documentaire sur votre père, pasteur en terre vaudoise. Vous avez alors 25 ans. C'était votre rêve d'enfant de faire du cinéma, Lionel Bayer ?
C'est mon rêve à partir, je pense, de l'âge de 9 ans. Donc oui, c'est quand on a 9 ans, on est encore un enfant. Oui. J'avais vu un film d'Hitchcock à la télé, Complot de famille, et je m'étais étonné du fait qu'il y avait une scène de poursuite de voiture et qu'il n'y avait pas de musique, alors que dans les films que je voyais, enfant, ou les séries de télévision, il y avait de la musique quand il y avait une poursuite de voiture. Et là, je me suis demandé pourquoi il n'y en avait pas. Et ma mère m'a expliqué que, parce qu'il y avait un réalisateur qui avait décidé qu'il n'y aurait pas de musique dans cette scène et que c'était le gros monsieur que l'on voyait à un moment donné dans le film, puisqu'Hitchcock fait des apparitions dans chacun de ses films. Et c'est là où j'ai pris conscience que ce n'était pas les acteurs ou le scénario in fine qui racontait le film, mais qu'il y avait quelqu'un qui était un ou une organisateur, organisatrice de cette narration. Et ça a commencé à m'intéresser. Donc je peux dire que oui, c'est un rêve d'enfant, bien que j'ai eu la chance de ne jamais trop... Je ne peux pas vous dire que je ne l'ai pas pris au sérieux, mais je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était difficile d'accéder à ce statut, qu'il y avait peu de personnes qui avaient la possibilité de faire de la réalisation, parce que ça coûte de l'argent, parce que c'est difficile, et que j'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose de complètement normal, comme de vouloir être, je ne sais pas, faire blanquier ou boulanger, et que si on avait envie, on pouvait le faire. Et je pense que cette espèce de naïveté campagnarde, moi j'ai grandi à la campagne, cette espèce de naïveté m'a complètement protégé. Parce que j'ai jamais douté du fait que je ferais réalisateur, alors que c'est complètement improbable d'imaginer qu'on peut faire ce métier.
Et en même temps, ce que vous racontez dans la scène avec votre maman, ça veut dire que quand vous leur dites « moi je veux faire du cinéma », il n'y a pas de réelle surprise, c'est validé littéralement.
Oui, mais parce que j'ai souvent dit qu'on est autodidacte quand on apprend tout seul, ce qui est mon cas, mais en fait j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui étaient intéressés par la culture, intéressés par le cinéma, Et donc, je n'ai pas eu à me battre. Je trouve que c'est très différent quand vous venez d'un milieu qui ont résistance par rapport à ce que vous voulez faire et qu'il faut aller chercher en dehors de la maison les informations, la possibilité de pouvoir évoluer dans l'univers que l'on veut. Moi, mes parents avaient une bibliothèque. Je pense que quand vous avez une bibliothèque à la maison, ça veut dire que vos parents lisent, ils ont des livres, ils sont ouverts au fait que vous partiez vous-même vous renseigner. Et donc, c'est mon cas. Donc, je ne peux pas vraiment dire que je suis autodidacte parce que mon désir de cinéma a été validé par mes parents d'une certaine façon. Donc, je n'ai aucun mérite.
Lionel Bayard, on va parler de votre film La Cache, une chronique de mai 68 dans les yeux d'un garçon de 9 ans qui se cache chez ses grands-parents. Pendant que l'on vit, ce que l'on nomme les événements, ce film est le dernier rôle de Michel Blanc. Alors forcément, ça donne un angle de vue particulier à la sortie de ce film. Il y a une émotion particulière, il y a une pression particulière pour en parler désormais.
C'est toujours, on a l'impression qu'on porte la responsabilité seule d'un film qu'on a fait en commun. Et puis, personnellement, la tristesse de ne pas pouvoir lui rendre le film qu'il m'avait prêté, d'une certaine façon, quand les comédiens jouent devant votre caméra, c'est qu'ils vous confient quelque chose d'eux, et c'est comme une lettre qu'ils vous envoient, et vous espérez un jour, vous avez l'espoir, vous montez même le film comme une réponse, comme une sorte de retour de ce qui vous a été donné, de donner à nouveau ce qui vous a été prêté, peut-être, d'une certaine façon. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on m'a déposé quelque chose dans les mains, que je l'ai fait fructifier, je l'espère, et que j'aurais bien voulu qu'il puisse le voir. Donc ça teinte la sortie du film, évidemment, de quelque chose d'un peu nostalgique, et en même temps, tous les soirs, je me dis, c'est quand même formidable le cinéma, parce qu'il est vivant, en fait, pour les gens qui vont aller voir le film la semaine prochaine en Suisse. Tous les soirs, ils découvriront Michel Blanc dans quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu jouer, et même dans les films dans lesquels on l'a déjà vu jouer, c'est-à-dire si vous regardez pour la énième fois Les Bronzés, vous allez, parce que vous vieillissez avec le film, découvrir autre chose. Il va vous parler de façon différente dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est ça que je trouve beau avec le cinéma, c'est que je me dis vraiment tous les soirs, il est en présence. Et peut-être pour les auditrices et auditeurs qui ne l'ont jamais rencontré, sa mort, c'est quelque chose de très lointain, parce qu'il n'a jamais été vivant mort, il a été toujours vivant sur un écran. Il est toujours vivant sur un écran, sauf qu'il n'y aura pas de nouveaux films, mais chaque film que l'on revoit à un autre moment de sa vie est d'une certaine façon un nouveau film, donc il est vivant.
Et ça va jusqu'à la dernière scène, sans la spoiler, qui est emblématique au fait, qui est symbolique de ce mouvement justement qui sera toujours là.
Oui, c'est assez troublant. C'est une scène, on ne spoile rien en disant qu'il marche sur le bord d'une route en chantonnant avec un petit garçon qui est l'autre héros du film. Mais c'est une scène particulière parce qu'on l'a tournée sans savoir ce qu'on était en train de tourner. En fait, on ne savait pas que ce serait le dernier plan de sa filmographie. À l'époque, c'était en avril l'année passée. Il était tout à fait en bonne santé. Et c'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'on l'entend chantonner. Il chantonne du Brahms. C'est que c'est quelqu'un qui aurait voulu être musicien. Il aurait voulu être pianiste classique. Et quand il arrive au lycée Pasteur, il a rencontré Gérard Jugnot qui, lui, allait à la cinéma qui voulait être réalisateur, et c'est un petit peu Jugnot qui l'entraînait en fait d'abord à aller voir des films, et puis ensuite ses autres camarades du Splendide qui faisaient du théâtre. Et il s'est rendu compte en fait qu'il avait un talent pour faire rire et qu'il savait écrire. Il a écrit un court métrage très vite quand il avait 16-17 ans, et donc le cinéma l'a comme fait changer de piste. Mais il aurait voulu être musicien classique, et donc qu'il finisse sa carrière en chantonnant du Brahms, c'est complètement incroyable parce qu'en fait il finit par faire ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire être plutôt musicien.
La boucle est bouclée, en quelque sorte. C'est un film formidable pour ceux qui aiment la famille et qui peut être étouffant pour ceux qui se disent pourquoi la famille, ça peut être aussi envahissant.
C'est vrai.
Ça fait résonance avec votre histoire.
Ah oui, puis je pense que vous l'avez bien dit, c'est-à-dire on peut, je crois, à la fois... ce qui est très sain, c'est à la fois d'avoir de l'affection pour sa famille, la trouver étouffante. Ce qui est mon cas, c'est-à-dire on dit, je crois que 80% des crimes sont commis dans votre famille. Il n'y a pas d'endroit plus dangereux qu'une fête de fin de une fête de fin d'année. Vous êtes plus sûr, c'est plus sûr d'aller dans le Bronx la nuit que d'aller chez vos parents pour Noël, où il y a vraiment beaucoup de chances d'être tué quand même globalement ou agressé. Et le film raconte un peu ça, c'est-à-dire à quel point la famille peut être une source de névrose. C'est quand même des gens, les Boltanski dans le film, qui vivent tous ensemble. Ils dorment tous dans la même chambre, même des adultes de 30-35 ans dorment au pied du lit de leurs parents. Le fils Christian de 22-23 ans dormait des fois dans le lit de sa mère. Enfin, tout ça, quand on le lit de l'extérieur, on se dit, mais quelle horreur, quoi. Quelle source horrible de problèmes psychologiques à venir. Et puis, en même temps, il y a une sorte de cohérence et de cohésion entre eux, et puis une entraide qui est quand même assez fondamentale. Mais je crois qu'elle est comme toutes les sociétés humaines. La famille, c'est la première société humaine que vous rencontrez, et elle est à l'image des autres, c'est-à-dire elle est à la fois très très belle, et puis en même temps, il faut arriver à s'en détacher pour être un individu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société société, on est tous très individualistes. Cette idée de la famille comme un tout, puisqu'il disait qu'ils étaient comme un grand corps, qu'ils vivaient tous les uns avec les autres, c'est vraiment assez contre-intuitif par rapport à notre désir de bonheur, qui serait plutôt d'être seul, de pouvoir se débrouiller tout seul.
Et en même temps, cette solidarité, elle rassure, et on la voit vraiment, cette solidarité de la famille sur grand écran. Il y a ce terme magnifique de l'arrière-pays pour désigner l'aïeul, et c'est tellement beau comme symbole, tellement parlant. Ça, vous l'avez pioché directement dans le livre ?
C'est pas dans le livre. Non, c'est une invention, l'arrière-pays. Elle existe, le personnage existe. Ouais. Hein, elle s'appelle Niania dans le livre de Christophe Boltanski. C'était son arrière-grand-mère qu'il n'a pas connue, mais il la recompose son portrait à travers ce qu'on lui a raconté, et puis une grande tante qui était présente quelquefois à la maison. Non, l'arrière-pays, c'est une invention, en fait. Le terme est une invention.
La vôtre ?
Oui, d'où c'est venu, je ne peux pas vous dire. Il y avait... Oui, on avait joué comme tout le monde avait... ils ont tous des noms qui sont des noms... la grand-mère s'appelle Mère Grand, Père Grand, Grand-oncle, Petit-oncle. Et je me disais, elle, comme elle comprend toujours tard pour barre, et qu'elle ne comprend pas tout, elle avait entendu arrière-papy, parce qu'elle avait, elle dit avoir fait du bridge avec l'arrière-petit-fils de Molière, puisqu'elle est, c'est une affabulatrice. Et puis, elle n'avait pas compris, elle a entendu arrière-pays, et c'est resté. Et en même temps, c'est très juste, parce qu'il y a cette idée que l'arrière-pays, c'est ce qui suit l'endroit qui est touristique ou qui est visible. L'arrière-pays vaudois, ce sera le Gros de Vaud, que sais-je, etc. Et on dira que la Riviera est le devant. Et en fait, c'est quelque chose qui vient de très loin, qu'on apporte avec soi. Et comme elle vient avec la Russie en bandoulière, puisque c'est des immigrés russes, juifs russes, les Boltanski, elle vient avec ça sur ses épaules, elle raconte tout cette chose qui est dans votre dos, qui est derrière vous, ce pays qui est derrière vous. Il y a toujours un pays derrière vous, que ce soit le pays ancien dans lequel vous vivez, mais tel qu'il était avant, ou comme pour la plupart d'entre nous, l'immigration. La majorité ou la plus grande partie des Suisses viennent d'ailleurs, et donc ça raconte l'endroit d'où vous venez avant de venir vous établir ici. Je trouvais que le terme était très beau et très juste à concernant.
Alors vous dites, on l'a derrière notre dos, ce pays, des fois on l'a sur le dos.
Oui, c'est une raison. Et là, effectivement, avec elle, c'est plutôt derrière, parce qu'elle a une façon de vous inviter à travers les souvenirs qu'elle a, qui sont très pittoresques et sans doute pas toujours justes, pas toujours vrais. Mais c'est pas qu'elle ment, c'est que je crois qu'elle arrange, comme souvent quand vous êtes mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient aussi ici de l'immigration, vous arrangez votre passé. Parce que quand vous arrivez dans un pays, vous êtes obligé de répondre à une attente que les gens ont de vous ici pour pouvoir vous établir. Donc la plupart, peut-être même la totalité des personnes qui sont issues de l'immigration, à un moment donné, ont dû tricher, mentir, arranger les choses.
Ou même inconsciemment.
Même inconsciemment, aussi parce que des fois, il y a des choses qui sont douloureuses et on préfère se raconter quelque chose qui est plus doux. Et puis des fois aussi juste parce qu'en fait, on veut que vous soyez plutôt ça et c'est plus facile d'être assimilé. Donc on est ça, parce qu'on veut être assimilé. C'est très injuste toujours de poursuivre les gens qui demandent des papiers en disant « mais vous avez menti à un moment donné ». Mais bien sûr qu'on a menti ou menti n'est pas le bon terme. On a arrangé le réel pour qu'il corresponde à une vérité plus simple à comprendre. Et puis comme vous le dites, effectivement, des fois, c'est peut-être le cas de cette arrière-grand-mère. C'est que ça a été tellement dur sans doute de quitter Odessa pour elle, et c'était sans doute pas aussi rose que ce qu'elle le raconte, que c'est toujours plus beau de transmettre à ses petits-enfants le fait que c'était le paradis sur Terre, qu'Odessa était la plus belle ville du monde, que c'était vraiment une sorte de capitale de tous les plaisirs, que de dire, bah non, c'était dur, les Juifs étaient persécutés, la honte de la persécution, par exemple, est quand même beaucoup plus facile de dire Odessa, c'était magnifique, plutôt que de dire il y avait un ghetto, les gens nous humiliaient, etc. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie de transmettre à ses petits-enfants.
Ce qui pose à Lionel Bayer de tout ce que l'on a dit avant sur les origines, sur le pays, la question de la transmission que vous évoquiez à l'instant dans ce film, qui est une comédie, et il faut le dire et le redire, parce en quelques phrases, on peut saisir que le sujet, c'est mai 68, c'est aussi la quête de la liberté, c'est la famille et à quel point aussi elle vous attribue un rôle dont il est difficile de sortir. La transmission pour vous, à ce stade-là, elle se plaçait où dans ce film ? Parce qu'il y a à la fois la famille et à la fois la révolte.
C'est deux choses. Il y a ce qui vient de l'intérieur et qui est teinté de l'affection qu'on vous porte. À un moment donné, l'oncle artiste dit « je voudrais qu'on me dise que c'est beau » et sa famille répond « mais c'est beau ». Puis il dit « oui, mais quelqu'un du dehors ». C'est-à-dire, il y a à la fois ce que l'on peut vous dire et ce qu'on peut vous transmettre de l'intérieur, mais qui est toujours teinté à la fois de l'assurance d'être aimé et donc de l'assurance de cet amour qui vous fortifie et en même temps qui vous fait un petit peu douter parce que c'est un amour qui est presque acquis. Et comment faire pour tester à l'extérieur aussi quelque chose qui serait notre personne décontextualisée totalement de notre famille et de l'amour qu'on peut vous porter. Aller tester l'amour qu'on peut avoir chez les autres en dehors du cadre familial. Et le film raconte un peu cette tension, à la fois vouloir exister en dehors pour être sûr qu'on est reconnu par autre chose que les siens, et puis la très grande certitude qu'à la maison, il y a quelque chose qui sera toujours reconnu. Et en même temps, des fois, c'est un peu angoissant parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment vu, en fait, pour ce qu'on est quand on est chez soi? Parce que dans le fond, quand on dit « je t'aime de façon inconditionnelle », c'est à la fois beau et c'est en même temps un petit peu angoissant, en se disant « mais non, mais moi je voudrais bien que cet amour il soit tout le temps remis en question, remis en cause ». Je crois que c'est la même chose d'une relation amoureuse, de se dire « je t'aimerai toujours », c'est pas vraiment un cadeau. Se dire « non, non, il faut que tous les matins, je puisse me dire « je pourrais peut-être perdre cet amour ». Et il faut donc que tous les jours, je m'assure de le nourrir, de le faire fructifier, etc. Mais la famille, c'est vrai qu'on dit qu'il y a cette espèce d'amour, vos parents vous aimerez vos enfants, quoi qu'il en coûte. Mais je me dis, je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau. Et peut-être qu'à ce moment, mai 68, il y a cette envie, en tout cas pour un des fils, le père du petit garçon, Luc Boltanski, dans La Vérité, c'est d'aller voir à l'extérieur s'il n'y a pas une autre réalité qui pourrait être plus forte que la société familiale qu'on a rencontrée jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ce que le film raconte, cette espèce de tiraillement, en fait, entre ce qui serait la vérité fondamentale de l'amour familial et puis un amour à aller chercher à l'extérieur.
Le déclic pour ce film, La Cache, Lionel Bayer, c'est pas véritablement fou. C'est quand même quelque chose que l'on vous transmet, en l'occurrence le livre.
Oui, moi j'avais pas... J'ai lu le livre parce qu'on me l'a proposé pour en faire une adaptation. Et est-ce que je l'aurais lu tout seul? Peut-être parce que Christophe Boltanski, le nom m'aurait dit quelque chose. Je connaissais de réputation Christian Boltanski, donc peut-être que j'aurais lu. Et peut-être qu'évidemment, les origines d'Odessa, de sa famille, qui résonnent avec celles de ma famille, m'auraient sans doute intrigué. Mais je pense que si je l'avais lu, je ne me serais pas dit une seconde qu'il fallait en faire une adaptation. Là, je l'ai lu en sachant, parce que quelqu'un m'avait proposé d'en faire l'adaptation. Donc je l'ai lu en me disant, tiens, est-ce que c'est adaptable ou pas? Objectivement, ça ne l'est pas, le livre ne l'est pas, parce que c'est une suite de souvenirs qu'il prend pour chacune des pièces de leur appartement dans lequel ils ont vécu et raconte sur un siècle ce qui s'est passé dans cet appartement pour toute la famille. Donc c'est très peu narratif, très peu linéaire. Après, le livre m'a tellement intrigué de par sa drôlerie, alors qu'il parle de quelque chose qui n'est pas drôle, en fait. Le grand-père Boltanski s'est caché sous le sol de sa salle de bain pendant la guerre, de plein de choses qui sont des traumatismes liés à la guerre, à la déportation, mais de manière très drôle et très invitante pour le lecteur. Vous savez, quand on lit des témoignages de gens qui ont vécu des choses épouvantables, on a toujours l'impression qu'on se met un peu, ou qu'on est mis parfois en infériorité. Comment comprendre qu'entre soi-même, on n'a pas été pourchassé par les nazis? Et donc, on a toujours un petit peu un sentiment d'être en dessous. Et là, ce qui est très beau, c'est que le livre n'arrêtait pas de dire « Non, 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 vous allez comprendre, je vous parle à vous, parce qu'en fait, je ne suis pas différent de vous, malgré ce qui m'est arrivé. » Puis c'est ce qu'on essaie de faire dans le film, c'est de dire cette drôlerie, cet humour, c'est une façon de dire « Je vous invite à venir écouter cette histoire, et je ne vous prends pas de haut, et vous allez voir, n'allez pas être en infériorité, il faut juste que vous écoutiez. » Ça m'a beaucoup plu, et c'est ça que j'essaie d'adapter.
Alors, vous l'adaptez dans les années 60, et là, on voit votre goût pour le détail. Je salue au passage la radio qui a quand même posé...
Grande importance.
Oui, et qui est posée sur la table de la cuisine.
Ah oui, bien sûr, c'était un objet central à l'époque. Et on oublie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent tendance, pour plein de questions liées à notre pulsion scopique d'aimer voir des choses plutôt que de les entendre. On regarde beaucoup les archives à la télé, mais à l'époque, l'information sur ce qui se passait dans la rue passait par la radio. Et les archives de l'ORTF sont super, parce que ce qu'on entend en fait de la radio, de France Inter à l'époque, ou de RTL, c'est vraiment des gens qui sont sur le terrain. Et il y a des formidables reportages de Jean-Claude Bourret où il est vraiment sur les barricades et qui dit « on est en train de tirer des bombes lacrymogènes, je suis passé sous une porte, je me suis caché sur... » Et on vit vraiment de manière incroyable cette chose. Et donc c'est vrai que le poste de la radio est central. Il y a même De Gaulle qui va, pour une raison particulière dans le film, apparaître, mais on va lui donner un conseil parce qu'effectivement, à la fin de mai 68, lui prend la parole à la radio et pas à la télé. Et vraiment à la radio, comme une sorte de persistance de la voix de la France, comme il l'avait fait pendant la guerre. Donc la radio est centrale, et j'adore la radio, je l'avais déjà filmé en 74, en 74, dans Les Grandes Ondes, la Révolution portugaise. C'est un média qui est formidable parce qu'il vous parle à l'intime. Quand vous êtes, c'est le seul média qui vous parle sous la douche, aux toilettes, dans la rue, maintenant qu'on l'écoute des fois avec son téléphone portable, et puis qui est au milieu de la salle de la cuisine, au milieu de la table, avec la famille. En fait, la radio est là.
C'est vraiment le cœur de la vie, en quelque sorte.
C'est le cœur de la vie, oui, absolument. Oui.
En janvier dernier, Lionel Bayer, vous étiez présent à la Berlinale pour La Cache. C'était une première pour vous de concourir en sélection officielle d'un grand festival. Alors, on sait que vous n'aimez pas forcément les festivals pour X raisons, mais c'est une reconnaissance pour vous.
En fait, c'est un peu injuste pour Locarno, mais j'avais déjà été en compétition à Locarno en 2008, qui est aussi un des grands festivals à, mais c'est vrai, par un festival en dehors de Suisse. Comment vous dire, quand on fait des comédies, on part du principe qu'il y a très peu de chances qu'on soit en sélection officielle de quoi que ce soit. Parce que les gens aiment beaucoup les comédies, mais en général, on ne les prend pas en sélection officielle. On prend souvent en sélection parallèle. J'étais à la quinzaine des réalisateurs, j'étais à Panorama, à Berlin, à des endroits voilà, qui sont très prestigieux et j'étais très heureux d'y être. Mais on ne pense pas que le film doit pouvoir concourir en compétition. Parce que ça donne l'impression que c'est toujours un petit peu moins important qu'un drame ou qu'un film dramatique. Pour moi, la comédie est vraiment un des genres majeurs du cinéma, comme l'est le cinéma fantastique, ou qui sont des genres compliqués, parce que en fait, une comédie, le film peut être aussi intelligent, bien filmé, bien joué, s'il ne fait pas rire, il ne marche pas. Une comédie, c'est simple, hein, c'est l'émotion qui est juge du fait de savoir si c'est une comédie ou pas. Si vous ne riez ou pas au film, ça n'est pas une comédie, et donc c'est raté. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font de la comédie, et je m'évertue à essayer d'en faire, des fois plus drôle, des fois moins drôle, des fois au premier degré, des fois pas au premier degré. Être dans un festival, c'est une vraie reconnaissance, parce que ça vous donne une visibilité. Ça permet au film de se vendre mieux à l'étranger. Pour moi, ça fait pas tant de différence que ça, en fait. Je crois que c'est après le rapport que les spectateurs et spectatrices ont avec le film qui est important. C'est pas de la démagogie, c'est que vous l'avez dit au début, j'étais d'abord exploitant et je me suis occupé d'une salle de cinéma. Et vous revenez quand même à ce sentiment premier qui est entendre les gens parler du film à la sortie de la salle, qui est important. Les festivals, c'est une sorte de reconnaissance en dehors qui fait que les gens, quand ils vont voir le film, ils vont le voir de façon différente. Parce qu'il y a presque une sorte d'avertissement au début, avec ce carton où c'est marqué Berlinale, ou Cannes, ou Venise. Et donc, on se dit toujours, ah bah quand même, ça doit être bien, hein, puisqu'ils l'ont sélectionné. Donc, oui. D'une certaine façon, des fois, je trouve ça presque plus intimidant. En disant, on s'en tape, c'est vous qui décidez maintenant. Qu'est-ce que Berlin, Cannes ou Venise ont décidé ? C'est un peu égal, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que ça vous rassure aussi à un endroit, parce que vous vous dites, les gens qui ont mis de l'argent dans le film vont être contents. Ils se disent, on n'a pas mis de l'argent pour rien, le film est allé à Berlin ou à Venise. Donc c'est bien pour ça, je crois.
Et ce que vous décrivez là, à l'instant, Lionel Bayer, ça revient aussi en écho à ce que vous disiez de votre rôle de réalisateur. Votre rôle de réalisateur, c'est de porter au mieux la prestation des acteurs.
Oui, je crois que c'est les accompagner, parce que le travail, c'est de leur faire la proposition de jouer dans le film. S'ils l'acceptent et que vous êtes sûr que vous avez de l'affection pour eux, voire peut-être même une forme d'amour, qui est un amour amour sincère, mais qui n'est pas le même que celui que vous avez dans la vie, mais une sorte de préoccupation d'eux. Quand vous êtes sur le plateau, ensuite, vous allez toujours vous dire, ça me semblerait impossible que quand ils voient le film, ils soient déçus de la confiance qu'ils m'ont laissée. Parce que des comédiens, c'est des gens qui jouent devant vous, qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, mais ils n'ont pas le contrôle sur leur image, donc ils vous la confient. Et moi, j'ai cette préoccupation en tête de me dire, il faut qu'au final, quand ils voient le film, il n'y ait pas un seul plan où ils se disent, mais pourquoi tu as gardé ce plan, cette image ? Donc j'ai l'impression que je dois tout faire sur le plateau pour que j'ai le maximum de choses qui leur permettent d'être bons. Et puis ensuite, c'est de leur faire confiance, c'est de les accompagner, c'est d'essayer de les pousser à être le mieux possible dans chacun des plans. Mais j'ai pas grand-chose à leur dire, à part le fait, chaque fois, de les mettre en confiance. Ça passe des fois la direction d'actrice ou d'acteur, le terme est impropre, mais on n'en a pas vraiment de mieux en français, d'aller discuter avec eux entre deux prises, et d'autres choses, pas du film, des fois d'autres choses. Et juste de leur dire, ça va aller, je suis avec vous. Et oui, d'une certaine façon, de leur dire, je vous remercie chaque fois de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'on essaye encore un peu plus loin, encore un peu plus ? Mais c'est pas plus ni moins que ça.
Il faut les accompagner, pas les braquer. Donc vous êtes un accompagnateur.
Oui, il y a des gens, mais vous dirigez des comédiens comme vous êtes dans la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très forts, et vraiment des très grands réalisateurs, des très grandes réalisatrices, qui sont très forts dans le conflit. Ils arrivent à mettre les acteurs, les actrices dans un état qui fait qu'ils se dépassent, qu'il y a un endroit où ils ne seraient pas allés normalement, parce qu'ils vont hurler, crier, parce qu'ils vont être très autoritaires. Et des fois, c'est bien aussi. Ça correspond à ce que des actrices et des acteurs ont besoin. Quand on le fait contre eux, ça c'est plus problématique. Quand d'un seul coup on les brusque à un endroit où ils veulent pas être brusqués, je crois pas à ça. Moi j'ai plutôt tendance à me dire, il y a un truc de chat, il faut que j'aille me glisser dans vos jambes pour que vous ayez envie de me caresser. Et donc plus vous allez me caresser, plus je vais venir me glisser dans vos jambes. Et de ça on va trouver quelque chose, mais on va chercher ensemble. Mais je crois que c'est vraiment comme vous êtes. Moi j'aime pas lever la voix, donc je lève pas la voix. Il y a d'autres gens qui le font et qui le font très bien, et ça marche très bien.
Et alors, une fois que votre travail est terminé, que le travail des acteurs est terminé, entre en scène le travail du public, et c'est ce que vous racontiez à la sortie de la salle, ce qui veut dire qu'en fait, un réalisateur, c'est un passeur.
Oui, et puis je crois vraiment que ce qui est intéressant dans ce que je vis maintenant, présenter le film, aller le présenter dans plein de salles en Suisse romande, c'est que vous vous rendez compte à quel point le film ne vous appartient plus. et que vous, qui en parlez ce matin, mais les gens qui vont le voir et qui en parleront à la sortie, vous pouvez dire ce que vous voulez dessus, et dans le fond, j'apprends la façon dont vous l'avez vu, et ça me donne une indication sur ce que j'ai fait. On avance, je crois, quand même un petit peu à l'aveugle, ou en tout cas, il faut laisser son inconscient prendre beaucoup de place. Donc il y a des choses que l'on fait dans le film où, parce que les spectateurs vous en parlent, vous vous dites « tiens, j'y ai pas pensé ». Oui, j'y ai pensé une fois il y a très longtemps, quand on est en train d'écrire le scénario il y a cela plus de 8 ans. C'est drôle que ça résiste et que ce soit dans le film. Et dans le fond, moi, ça me réjouit de me dire « il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé ». Quand vous faites vos premiers films, vous parliez de moi quand j'avais 25 ans et que je fais le film sur mon père, vous avez envie peut-être pendant les premières années de votre carrière de beaucoup contrôler, que tout soit à la mesure et à l'image de ce que vous avez voulu, de ce que vous avez imaginé. Plus vous vieillissez, plus vous avez un plaisir à ce que les choses vous échappent, que les acteurs ne fassent pas exactement ce que vous avez voulu, que le montage ne soit pas exactement celui que vous aviez imaginé, parce que vous êtes surpris de vous dire « ah ben, essayons de voir ce qui se produit ». Un acteur, quand vous commencez votre carrière, vous allez essayer, je crois, dans la prise, à ce qu'il fasse exactement ce que vous avez imaginé. Et maintenant, moi, je suis assez surpris de dire « bah, fais-moi une proposition ». C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Au lieu de dire non tout de suite, essayons de voir un petit peu plus loin ce qui se produit, parce que j'ai envie d'être un petit peu surpris. J'ai pas envie de refaire les mêmes choses. Donc j'ai toujours envie de me dire, est-ce que je peux apprendre quelque chose sur mon métier et sur le film que je suis en train de faire à travers ce que les autres vous disent dessus.
Et en même temps, dans votre parcours, Lionel Bayer, vous commencez documentariste et vous passez au bout de deux films, après deux films, à la fiction. C'est une réelle différence ?
Non. Je crois qu'on a la chance en Suisse d'avoir un cinéma de documentaire qui est très fort et que cette question du documentaire, elle soit prise avec l'idée même d'être cinéaste. Mais vous avez raison, dans la tête des gens, on dit toujours « on passe ». Oui. Moi, j'y suis revenu une fois pour un film sur Claude Goretta en 2011, qui était un documentaire. Là, je travaille sur un documentaire en ce moment et j'ai très peur parce que c'est une forme que je trouve plus, pour moi, engageante que la fiction. Il m'est pour moi plus difficile de faire du documentaire que de la fiction. Donc j'ai envie de me reconfronter à ça, mais le documentaire, c'est le genre maître du cinéma pour moi. Il n'y a pas de genre plus pur ou de plus fort en termes d'écriture cinématographique que le documentaire. Et donc, j'ai fait de la fiction, j'ai l'impression que les thèmes s'y prêtaient plus. Là, j'ai un thème qui est plus abstrait, donc j'ai l'impression que le documentaire s'y prête plus. C'est comme, pour moi, c'est la même différence que vous avez entre le roman et la poésie. Les deux sont de l'ordre de l'irréalité. Le roman, ce serait la fiction au cinéma, et la poésie, ce serait le documentaire. C'est pas plus vrai ou moins vrai, c'est une forme plus métaphorique, en fait. Et c'est vrai qu'en Suisse, on vous permet quand même de faire cet aller-retour. Il y a plein de pays où vous êtes un réalisateur de documentaire. Nicolas Philibert fait des documentaires en France. Ça serait très étrange de faire de la fiction. Et puis, si d'un coup, on se rendait compte, je ne sais pas, que Arnaud Desplechin, bon, il a fait un documentaire dernièrement, fait du documentaire. Les gens se disent « Ah bon, du documentaire ?» Mais ce n'est pas du tout son genre de cinéma. En Suisse, on a l'habitude qu'on puisse passer de l'un à l'autre.
Lionel Bayer, un film pour vous, ça commence à quel moment ? Quand l'idée arrive, quand les comédiens sont choisis, quand la première scène est tournée ?
Ça commence même dans la rue, dans le bus, le matin, en regardant des gens et en se demandant si ça ne pourrait pas rentrer dans un film, ou ça ne pourrait pas faire... Je crois qu'un réalisateur ou une réalisatrice, quelqu'un qui est maudit d'une certaine façon, parce qu'il ne pense que en se demandant si on ne pourrait pas arranger ça, ce que j'ai vu, pour en faire une fiction. À tel point même que des fois, il faut se battre un peu en se disant, il faut que j'arrive aussi à vivre les choses juste pour ce qu'elles sont. Le plaisir de rester à ne rien faire et à regarder les gens passer dans la rue sans me dire, tiens, ça pourrait être utile.
Parce que vous êtes toujours en alerte.
Ben, on est toujours un petit peu... On s'exerce. C'est un métier qui est tellement rare, en fait. Le moment où vous êtes sur le plateau, c'est quand même pas souvent dans votre vie. C'est tous les 3-4 ans ou 2 ans, si vous avez de la chance. Et j'ai l'impression que quand on prend le bus le matin ou qu'on observe les gens, ce que je fais souvent, c'est-à-dire de ne pas lire ou de ne pas regarder son téléphone portable, mais juste de regarder les gens et de déduire quelles sont leurs vies en fonction de ce qu'ils ont, ce qu'ils portent, de comment est-ce qu'ils se comportent. Il y a un petit plaisir à l'idée de raconter une histoire. Et donc, c'est d'être en alerte de ce qui est autour de nous. Après, concrètement, j'ai l'impression que ça commence quand vous prenez un stylo et un bout de papier. Et que vous commencez juste à sortir de votre tête quelque chose que vous l'avez vu pour le mettre sur le papier. C'est pour ça que je crois qu'on se dit souvent, les gens aujourd'hui font plein de séminaires ou d'ateliers pour écrire des scénarios, où on a l'impression qu'ils font qu'ils soient aidés pour le faire. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte un carnet et un stylo de commencer à écrire un film. Et de sortir de soi une idée qui n'est pas que pour soi. Et quand on la pose sur papier, elle commence déjà à être mise en forme pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça, c'est juste mettre en forme pour les autres quelque chose qu'on a dans la tête de faire du cinéma.
Ça veut dire que vous avez toujours un carnet sur vous, Lionel Bayer ?
Là, j'ai changé ce matin, mais je suis arrivé hier soir de Paris et j'ai changé de veste. Mais regardez, je dois avoir mon stylo dans la poche. Et oui, hier soir, dans le train, j'ai noté des choses. j'ai toujours un petit bout de papier, en tout cas, qui traîne. Et puis, des fois, c'est même les restaurants vous donnent des fois une quittance. Après le repas, je note au dos quelque chose et je note tout. Chaque jour, je note quelque chose dans un carnet. Oui.
Et après, vous conservez ça précieusement. Vous êtes assez ordonné pour le faire.
Alors, je les garde dans des carnets et je les transpose sur un ordinateur plus de 15 ans après. C'est-à-dire, je note dans un carnet, je l'utilise pour faire des films, des fois, mais tout ce que je note à la journée, je reprends le carnet que j'ai écrit il y a 10-15 ans et je le repasse chaque jour, je le recopie. Donc, si vous voulez, en ce moment, je suis en train de traiter l'année... J'ai regardé hier, je suis en train de traiter l'année 2010. Je dois être en mars ou avril 2010. Et donc, je suis en train de copier dans mon carnet ce que j'ai écrit en 2010. Et c'est un drôle de retour sur soi-même 15 ans avant, en vous disant qu'est-ce que je pensais 15 ans avant. Vous découvrez des choses que vous avez dites ou que vous avez pensées. Et quand on sort un film, c'est toujours tellement angoissant que je me dis, oui, mais dans quelle angoisse tu étais quand tu as sorti en 2008 ou en 2013, Les Grandes Ondes, et vous vous dites, ben, il y avait déjà ça, tu avais déjà peur de ça, ou tiens, là-dessus, tu es rassuré, maintenant, ça te fait moins peur. Donc, c'est une sorte de discussion avec soi-même dans le passé qui est complètement dingue. Mais c'est pour ça qu'à la suite de ce soir, quand je rentrerai à la maison, je noterai des choses sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, sur la rencontre que j'ai avec vous, même une phrase, un adjectif, etc. Et donc, 15 ans, je le reprendrai et je me raconterai, je me souviendrai de ce qui s'est passé.
On se donne rendez-vous en
2040.
Joli chiffre. Ouais. On arrive au terme de cette rencontre, Lionel Bayer. C'est un exercice de style du tac au tac. Mais vous avez l'air comme ça, précis, vif, ça ne devrait pas trop vous angoisser, ça va.
Attends, vous mettez la pression, oui.
Quel est le meilleur moment quand on réalise un film, Lionel Bayer ?
Quand on est avec les acteurs sur le plateau et qu'on leur parle et qu'on est en train de faire une prise et qu'on les voit jouer.
Quel est le pire moment quand on réalise un film ?
L'heure qui tourne, c'est-à-dire de regarder tous les matins, chaque minute ça monte, on se dit aïe aïe aïe, on va être en heure supplémentaire, c'est l'angoisse de la montre, c'est regarder ça monte toutes les 10 minutes.
Le compliment qui vous a le plus touché jusque-là ?
Vos films parlent de moi. Quand les spectateurs vous disent, ils ont parlé de ma vie. Alors ça, c'est parfait. C'est ce que je veux faire.
La rencontre la plus importante dans votre parcours ?
Peut-être Jacqueline Veuve, qui était une réalisatrice de documentaires suisses en 1996 à Soleure, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, que j'ai eu la chance de travailler avec elle.
Vous aviez alors 21 ans ?
J'avais 20 ans, parce que je suis toujours de la fin, 75, donc j'avais 20 ans. Ouais.
Le sujet que vous rêvez d'aborder, que vous n'avez pas encore abordé ?
La question de la Shoah et de la déportation, c'était important. Ça faisait des années que je voulais le faire et je suis très heureux d'avoir pu le faire de manière fractionnée dans la cache. Donc c'était un sujet qui me tenait à cœur. Maintenant, vous arriverez à couper puisque on a des citations.
En plus, il y a des travaux, donc ça fait travaux. Vraiment ouais. Vivant.
Attendez, je réfléchis. Un sujet que je voudrais vraiment traiter. Non, mais je crois que c'est un petit peu toujours, ça rejoint peut-être ce que je vous ai dit par rapport au carnet à repasser en arrière, c'est à quel point d'arriver à faire des films qui montrent que le temps n'est pas linéaire et qu'en fait on fait des boucles, qu'il faut accepter cette idée que le temps est une boucle et qu'il faut essayer de sortir chaque fois de cette boucle pour en passer dans une autre. Donc c'est peut-être un film sur le temps, arriver à faire un film sur le temps qui thématiserait comme personnage principal le temps.
Votre première pensée le matin, elle est plutôt optimiste ?
Le matin, elle est très optimiste et le soir, elle est catastrophée. C'est-à-dire, je me réveille tous les matins en me disant « ça va aller, tu verras, t'as du talent, ça va bien marcher ». Le soir, je me dis « mais t'es vraiment qu'une merde, c'est pas possible, tu travailles pas assez, t'es pas assez sérieux, etc. » Donc je me réveille avec un ego surdimensionné et je me couche, mais vraiment avec un ego mais dégonflé au maximum, tous les soirs. Ouais.
Et au fil de la journée, il n'y a pas une rencontre, quelque chose qui sauve cette journée au fur et à mesure ?
Oh, c'est de croiser un chat. Si je vois un chat dans la journée que j'arrive à caresser, qu'un chat s'approche de moi, que j'arrive à le caresser, je me dis, la journée n'est pas foutue, quand même. Je crois être très optimiste, mais assez... je ne suis pas défaitiste, mais je ne peux pas dire que je sois un optimiste forcené. Ouais.
Le film que vous auriez aimé tourner ? Cette fameuse scène d'Hitchcock que vous racontiez ?
Oui, ou peut-être j'aurais aimé tourner Fenêtre sur cour, mais j'en avais pas la psychose et le talent, ou peut-être, je sais pas si j'avais eu... Je pense qu'après, le caméraman ou Sherlock Jr. de Buster Keaton, on aurait pu arrêter de faire du cinéma. Il avait tout dit, tout raconté sur le XXe siècle, sur le cinéma, sur l'amour, sur le besoin d'être réconforté. Je pense que si j'avais réussi à faire ça, j'aurais arrêté de faire des films après.
Ah bah alors là, vous allez continuer un petit moment.
Je vais continuer un petit moment, parce que je n'ai pas le génie de Buster Keaton, ni le corps.
Votre duo d'acteurs, d'actrices rêvé, ce serait lequel ? Vous l'avez peut-être déjà eu.
Non, je ne sais pas. J'aurais... Non, alors sincèrement, ça, je ne sais pas. Parce qu'on ne pense jamais, vous voyez, par exemple, Michel Blanc, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, mais je n'aurais pas pu dire que je rêvais de tourner avec lui. Et après, quand le rôle s'est proche, j'ai dit, ce serait formidable que ce soit lui. Et donc, j'ai rêvé que ce soit lui pour ce rôle-là. J'ai l'impression que c'est toujours... Dans l'absolu, je crois qu'il n'y a personne avec qui je désirerais tourner complètement. Et après, quand un rôle se propose, je me dis, alors j'espère très fort et j'ai un désir très très fort que ce soit cette personne. Mais voilà, je n'ai pas d'acteur avec qui j'ai particulièrement envie de tourner.
Une devise, un conseil qu'on vous a peut-être donné au début du parcours, qui vous sert encore aujourd'hui, et avec vos petits carnets, que vous, peut-être que vous retrouvez sur le chemin.
Je crois qu'il faut, ne pas être intimidé par le cinéma. C'est pas plus dur ou moins dur qu'autre chose, il faut juste y aller. Ce qui est dur, c'est de se lancer dans une entreprise au long cours. C'est-à-dire c'est différent que de faire juste un petit croquis sur un bout de papier. Ça demande beaucoup de moyens et beaucoup de monde pour faire un film. Et il faut juste se lancer à un moment donné, ne pas avoir trop peur. Donc je crois que des fois, le milieu du cinéma a tendance à intimider les gens en disant « Oh là là, c'est très compliqué. » Les réalisateurs adorent dire que c'est très difficile de faire des films. Moi, j'ai envie de dire « Non, non, mais écoutez, essayez. C'est pas si dur que ça, c'est de tenir. C'est l'énergie sur une très longue période qui est importante. Mais inviter quelqu'un pour une émission de radio le matin, c'est aussi, à un moment donné, devoir se renseigner, regarder des films, lire des interviews sur Internet. C'est du travail, il faut le faire, à un moment donné. C'est pas vous retrouver ce matin et on se rencontre et de se dire dans l'absolu pour se dire ce serait intéressant de faire une émission de radio. Après, vous devez vous mettre en chemin. Donc voilà, simplement le chemin pour faire un film, il est très long. Donc il faut être un marathonien pour le faire. Voilà. Donc ne pas avoir peur et y aller, quoi, essayer.
Les 30 dernières secondes, Lionel Bayer, sont pour vous. C'est la carte blanche. 30 secondes, c'est toujours 7 prix.
Ah oui, c'est pas mal. C'est beaucoup, même en radio, dans le monde médiatique aujourd'hui.
Avec les travaux, alors vous qui aimez bien la radio, et puis on va le faire en situation directe, hein, là. Il y a les travaux juste au-dessus.
Mais c'est pas grave, parce qu'on est comme chez les gens. En fait, les gens doivent se dire, peut-être ce matin, dimanche matin, les voisins sont en train de faire du bruit au fond de la Zumba pour se muscler les fesses. Et donc, on nous entend moins bien, ou ils sont dans leur voiture, parce qu'ils partent faire une balade. Non, leur dire qu'en fait, on fait des films tous les 2 ans, tous les 3 ans, que c'est un rendez-vous qu'on prend avec les spectateurs et les spectatrices, c'est qu'on a toujours envie qu'ils viennent et qu'ils se sentent libres de ne pas aimer un film. Mais quand je suis là pour présenter le film, j'ai toujours envie que les gens disent qu'ils n'ont pas aimé parce que c'est intéressant et que c'est un objet entre eux et moi. Et que, comme la radio, c'est un objet transitionnel. Il y a vous, il y a eux, puis il y a la radio entre nous. Et on peut dire qu'on n'aime pas votre émission ou qu'on l'aime, mais ça ne veut pas dire qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas. Et donc, c'est d'avoir cette licence-là. C'est les films... Quoi qu'ils n'en coûtent, ils sont dans leurs mains maintenant. C'est eux les juges, bien plus que le Festival de Berlin ou que les critiques de cinéma. Donc qu'ils viennent faire leur travail de juge, ça m'intéressera toujours.
Merci beaucoup Lionel Bayer.
Merci à vous.